Lecture de la deuxième conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 25 mai 1907, extraite du cycle de conférences intitulé « Théosophie du Rose-Croix », bibliographie GA 99. 99. Nous avons parlé la dernière fois de la façon dont la méthode dite rosicrucienne s'adresse à l'esprit humain et de ses rapports avec la culture de notre temps. Certes, la connaissance des mondes supérieurs ne peut être acquise par le clairvoyant que s'il a développé des forces spirituelles qui sommeillent encore dans la plupart des êtres humains. Mais cette méthode s'efforce de présenter les vérités théosophiques de manière qu'elles puissent être comprises par la logique ordinaire. L'intuition du voyant découvre ces vérités, mais la simple logique suffit pour les comprendre. Toutefois, il n'en faudrait pas conclure qu'on puisse émettre une opinion sensée sur le contenu d'une conférence prise isolément. Ce n'est qu'après avoir considéré toutes les données dans leur enchaînement que l'on pourra saisir clairement la logique de l'ensemble. Et nous avons encore mentionné une autre particularité de cette méthode, la possibilité d'appliquer les données de la science de l'esprit aux problèmes de la vie pratique. C'est pour cette raison que ces vérités sont exposées ici de telle sorte qu'on peut, dans la vie quotidienne, les faire vivre en soi et s'en pénétrer. Mais là aussi, il faut de la patience. La valeur pratique de certains renseignements n'apparaîtra pas dès l'abord. Pourtant, à bien considérer l'ensemble, vous trouverez que les notions particulières sont présentées de façon à pouvoir influencer les aspects les plus courants de la vie quotidienne. Une sagesse qu'on peut mettre en pratique dans sa propre vie. Voilà ce que peut donner la méthode de recherche rosicrucienne. Nous étudierons en premier lieu la nature humaine et en particulier les différents corps, les différents éléments dont elle est constituée. En avançant pas à pas, méthodiquement, nous verrons toutes ces données s'enchaîner de façon organique. Puis nous considérerons le destin de l'âme humaine après la mort et nous verrons dans quel rapport mutuel se trouvent ces différents corps de l'être humain, qu'il s'agisse de l'être humain éveillé, de l'être humain endormi ou mort. Nous aurons à rechercher quelles sont les activités de l'être humain entre la mort et une nouvelle naissance. Car, contrairement à une opinion fort répandue, l'être humain n'est nullement inactif après la mort. Il a, au contraire, des travaux à accomplir qui ont leur importance dans l'économie générale de l'univers. Ensuite, il nous faudra expliquer ce qu'on entend par la réincarnation et le karma, et décrire, dans les grandes lignes, le destin de l'humanité. Tel qu'il s'est réalisé dans le passé, tel aussi que les perspectives de l'évolution humaine nous permettent de le prévoir pour l'avenir. Pour commencer, ma tâche sera donc de caractériser sommairement la nature humaine. Au regard de celui qui contemple l'être humain, avec des moyens de perception spirituelle méthodiquement développés, cette nature humaine apparaît comme un tout infiniment plus complexe que si l'on se contente de l'étudier à l'aide des sens ordinaires. La perception sensible, même contrôlée par l'entendement humain, n'en perçoit qu'une infime partie. Du point de vue de l'occultisme, il est faux, nous y avons déjà fait allusion, de donner le nom de corps physique à la configuration humaine que l'on a devant soi. Le corps physique, tel qu'il nous apparaît, est déjà comme imprégné des corps éthériques et astrales. C'est une combinaison de ces trois corps que nous voyons, et nous devrions commencer par en extraire les autres corps, si nous voulons avoir le corps physique à l'état brut. Ce corps physique est l'élément que l'entité humaine a en commun avec toute la nature physique qui constitue son entourage, les minéraux, les plantes et les animaux. À considérer correctement le corps humain, nous pouvons affirmer que sa substantialité englobe tout ce qui apparente l'être humain au règne minéral ambiant. Cependant, il faut tenir compte du fait que ce corps physique ne peut être compris si on l'isole du reste de l'univers. Les forces qui agissent en lui viennent du cosmos. Nous comprendrons mieux de quoi il s'agit si nous réfléchissons, par exemple, à la nature de l'arc-en-ciel. Pour qu'un arc-en-ciel apparaisse, il faut des conditions concourantes, une certaine propagation de la lumière solaire, des nuages chargés de pluie, etc. Ces conditions, une fois données, l'arc-en-ciel en est la conséquence inévitable. C'est un phénomène déterminé par des forces extérieures. Le corps physique, de même, n'est qu'une sorte d'apparence. Les forces qui lui donnent sa cohésion, nous devons les chercher dans tout l'univers ambiant. Mais ces forces, qui font apparaître le corps physique à nos yeux, où se manifestent-elles sous leur vrai jour ? C'est dans les mondes supérieurs que nous devons les chercher, car dans le monde physique, on ne peut étudier que la manifestation, le simulacre en quelque sorte du corps physique. Les forces qui le constituent viennent d'un monde spirituel très élevé. Il nous faut donc examiner les mondes que nous rencontrons dans l'univers en dehors de notre monde physique. Quand l'occultiste parle de régions supérieures, il s'agit de mondes qui nous entourent à tout moment. Mais pour les percevoir, il faut éveiller certains sens, tout comme l'œil physique doit s'ouvrir pour percevoir le monde des couleurs. Ces sens sont des sens psychiques et dépassent d'un degré les sens physiques. Lorsqu'ils s'ouvrent, le monde qui nous entoure nous apparaît comme imprégné de ce qu'on appelle le monde astral. La théosophie rosicrucienne appelle ce monde le monde de l'imagination. Mais en entendant par là quelque chose d'infiniment plus réel que ce que cette expression signifie d'ordinaire, on y voit un flux et un reflux d'images. La couleur qui, ici-bas, adhère aux objets, s'y trouve dans un état de métamorphose continuelle. Dans le mouvement spirituel d'inspiration rosicrucienne, on appelle aussi ce monde le monde élémentaire. De sorte que ces trois expressions, le monde de l'imagination, le monde astral et le monde élémentaire, sont synonymes. En outre, nous rencontrons un monde encore plus élevé si nous sommes doués de sens supérieurs à ceux qui nous révèlent le monde astral. Ce nouveau monde est celui de l'harmonie des sphères. Cette nouvelle région pénètre le monde des images et des couleurs vivantes. On l'appelle le Devachan, ou monde mental, ou Rupa Devachan. Dans le vocabulaire rosicrucien, monde de l'harmonie des sphères ou monde de l'inspiration, parce que le son y est l'élément qui transmet l'inspiration, lorsque nous devenons capables de le percevoir. On l'a aussi appelé le monde céleste ou Devachan supérieur. Tous ces termes sont une fois de plus synonymes. Enfin, nous avons un troisième monde que nous révèlent des sens encore plus affinés. La doctrine rosicrucienne l'appelle le monde de l'intuition véritable, étant bien entendu que le terme « intuition » n'a rien de commun avec ce que l'on entend par là dans le langage courant. Il s'agit en fait de se laisser absorber dans les entités supérieures, de s'insinuer en elles, de s'y unir de façon à les connaître comme de l'intérieur. Dans le rosicrucisme, on parle aussi du monde de la raison. Ce monde est à tel point élevé au-dessus du nôtre qu'il n'y projette qu'une sorte d'ombre, à la façon des ombres chinoises. Les concepts de la raison humaine ne sont en fait que de faibles ombres projetées par ce qui est réalité transcendante dans le monde de l'intuition. Nous devons donc tenir compte, en dehors de notre monde physique, de trois autres mondes, si nous voulons comprendre l'univers dans sa véritable structure. Or, l'origine des forces qui donnent de la cohésion au monde physique, il nous faut la chercher dans le monde le plus haut, celui de l'intuition. Les forces que le physicien étudie dans le monde physique ne paraissent que de faibles reflets des énergies qui l'animent. Si vous pouviez vous élever jusqu'à ce monde, vous y rencontreriez des entités vivantes pour chaque représentation que vous vous faites ici-bas. Qu'il s'agisse d'un cristal, d'un œil physique ou de n'importe quoi d'autre. Tout concept, toute notion ne sont dans notre monde que des ombres projetées par les entités de ce monde transcendant. Ainsi, notre monde physique est constitué par des forces qui n'apparaissent sous leur vrai jour que dans ce qu'on appelle en théosophie l'arupa devachan. Nous verrons encore plus clair si nous appliquons ces considérations à l'étude du règne minéral. L'être humain a conscience de son jeu. En revanche, d'un minéral, nous disons qu'il est inconscient. Mais il ne l'est que pour autant que nous demeurons sur le plan physique. Il n'en est plus de même si nous nous élevons dans les mondes supérieurs. Toutefois, ce n'est pas encore dans le monde élémentaire que vous trouverez l'ego du règne minéral, car un minéral n'a un jeu conscient de lui-même qu'au sein du plus haut des mondes que nous avons énumérés. De même que le doigt humain n'a aucune conscience en lui-même et qu'il faut remonter jusqu'au jeu humain pour la trouver, de même il nous faut passer du minéral à son jeu en remontant les courants qui le rattachent au monde de l'intuition. L'ongle de notre doigt fait partie de notre organisme humain. Il n'a de conscience que dans notre jeu. Mais un ongle, par rapport à l'ensemble de notre constitution, n'est pas autre chose que ce que représente un minéral par rapport au monde spirituel le plus élevé. La constitution humaine est douée d'un jeu, et les ongles sont l'expression dernière, la ramification la plus dense, la plus minéralisée de l'existence de ce jeu. Mais il y a encore autre chose. En tant qu'il est purement physique, le corps humain a encore ceci de commun avec les minéraux, que la conscience à laquelle il est relié se trouve, elle aussi, là-haut, dans le monde de l'esprit. Puisque telle est la nature de son corps, l'être humain se trouve doué, sans s'en rendre compte, d'une conscience purement physique, de sorte que ce corps matériel est constamment influencé par des forces supérieures qui lui donnent sa structure et sur lesquelles l'être humain n'a aucune prise. De même que c'est le jeu qui fait mouvoir la main, de même l'être humain, en ce qui concerne son corps physique, se trouve sous l'emprise d'un monde supérieur. C'est la « soi-conscience » entre guillemets, du corps matériel qui est à l'origine des processus purement physiques du corps. Seul l'initié, qui s'est élevé jusqu'au monde de l'intuition, acquiert un pouvoir sur son corps physique, de sorte qu'aucun courant nerveux ne passe le long de ses nerfs sans qu'il le sache. Par là seulement, il devient le compagnon des entités qui vivent là-haut et qui régissent le pouvoir de son corps. Le deuxième élément de la nature humaine que l'être humain a encore en commun avec les règnes végétal et animal est le corps éthérique ou corps de vie. Pour le voyant, il a approximativement la même forme que le corps physique. Ce corps vital est, en quelque sorte, un champ de force. Si vous pouviez, par la pensée, faire abstraction du corps physique, il nous resterait un corps traversé par les lignes de force qui ont édifié le corps matériel. Le cœur humain n'aurait jamais pu prendre sa forme actuelle si, dans le corps éthérique, qui de part en part imprègne le corps physique, il n'y avait un cœur éthérique dont les courants sont les forces génératrices de cet organe. Vous pouvez vous représenter le processus de la manière suivante. Prenez un récipient rempli d'eau, faites-l'y refroidir jusqu'à congélation. La glace qui s'y forme n'est pas autre chose que de l'eau, mais à l'état solidifié. Et les formes qu'affectent les cristaux de la glace étaient préfigurées dans l'eau du récipient sous forme de champs et de lignes de force. Ainsi, le cœur physique s'est développé à partir du cœur éthérique. Il n'est qu'un cœur éthérique matérialisé, et les courants qui circulent dans le cœur éthérique lui ont donné sa configuration, son aspect physique. Si vous pouviez faire abstraction du corps physique, vous constateriez que, surtout dans les parties supérieures, le corps éthérique est assez semblable au corps physique. Mais cette similitude ne s'étend que jusqu'au milieu du corps, car le corps éthérique a ceci de particulier, qu'il est de sexe féminin chez l'être humain mâle et de sexe masculin chez la femme. Si on ignore ce fait, bien des aspects de la vie pratique resteront incompréhensibles. L'apparence du corps éthérique est celle d'une forme lumineuse, qui, de toutes parts, dépasse légèrement le corps physique. L'être humain a ce corps en commun avec le règne végétal. Ce que nous avons dit du corps physique est également vrai pour le corps éthérique. Les forces qui le régissent lui viennent d'un monde supérieur. Ce monde, pour le corps éthérique, est le monde de l'inspiration ou monde du Rupa Devachan, qu'on appelle aussi le monde céleste. Les forces auxquelles le corps éthérique doit sa cohésion sont donc d'un échelon inférieur à celles qui régissent le corps physique. Il nous faut donc chercher la conscience de soi des plantes dans ce monde de l'inspiration, le dévachant inférieur. C'est aussi le monde des harmonies célestes. Nous y trouvons, à côté du jeu conscient des plantes, cette conscience de soi qui régit le corps éthérique humain et qui vit en chacun de nous, sans que nous nous en doutions. Nous en venons maintenant au troisième élément de l'entité humaine, au corps astral, ou pour employer le terme rosicrucien, au corps psychique. Ce corps astral, l'être humain ne l'a en commun qu'avec le règne animal. Il est le porteur et le lieu des expériences intimes d'un être, de sa sensibilité, de la joie et de la peine, des émotions qui l'agitent, des passions qui le tourmentent. Ses désirs, ses convoitises, tout cela est comme ancré dans le corps astral. Cet élément astral est ce qui caractérise le règne animal. Ce règne, lui aussi, est doué d'une conscience de soi. L'entité astrale chez l'être humain et chez l'animal est régie par des forces que nous devons chercher dans le monde astral ou imaginatif, ou, comme disent les Rose-Croix, dans le monde élémentaire. De sorte que c'est dans ce monde qu'apparaissent, sous leur véritable jour, les forces qui coordonnent le corps astral et lui donnent sa forme. C'est dans ce monde que l'animal a conscience de son « je ». Tandis que nous parlons d'une âme individuelle chez l'être humain, nous parlons d'âme-groupe quand il s'agit des animaux, et ces âmes-groupes évoluent sur le plan astral. Mais ce n'est pas l'animal particulier tel qu'il existe au niveau physique. C'est l'espèce. Par exemple, ce sont tous les lions, tous les tigres qui, dans le monde astral, ont un jeu en commun. Ainsi, ce que vous voyez ici-bas d'un animal ne deviendrait compréhensible dans sa totalité que si vous étiez en état d'en percevoir le prolongement jusqu'au plan astral. Vous verriez des sortes de fils ou d'attaches qui partent, par exemple, de chaque lion et qui se réunissent sur le plan astral en ce jeu-groupe commun à tous les lions vivants. De même que l'être humain a un jeu individuel, quelque chose d'un jeu-groupe vit dans chaque corps astral. Ce jeu, en quelque sorte animal, vit aussi dans le corps astral humain. Et l'être humain ne s'en affranchira que le jour où il deviendra clairvoyant sur le plan astral. Ce jour-là, il sera le commensal des entités astrales et il pourra, sur ce plan, rencontrer les âmes-groupes des animaux, comme il perçoit ici-bas les animaux terrestres. Là-haut, il verra des entités qui ne peuvent descendre sur le plan physique qu'en se morcelant, pour ainsi dire, en une multitude d'animaux particuliers. Au terme de leur vie terrestre, ces animaux s'unissent de rechef, sur le plan astral, à la partie supérieure de leur être. Là-haut, une âme-groupe est une entité avec laquelle on peut avoir des rapports ou s'entretenir comme on s'entretient ici-bas avec les êtres humains. Bien que la ressemblance ne soit qu'approximative, ce n'est pas à tort que dans le deuxième sceau apocalyptique, ces âmes-groupes se trouvent réparties en quatre classes. Le lion, l'aigle, le taureau et l'être humain. L'être humain qui n'est pas encore descendu sur le plan physique. Ces quatre animaux apocalyptiques sont les quatre classes des âmes-groupes qui, parmi toutes les autres, se rapprochent le plus sur le plan astral de l'âme individuelle de l'être humain. Nous allons maintenant considérer cet élément de la nature humaine qui est le propre de l'être humain et qui s'exprime dans le « je ». C'est le quatrième des éléments qui constituent l'entité humaine. Par le « je », l'être humain s'élève au sommet de la création terrestre. Ce n'est qu'au niveau du « je » que la nature humaine acquiert ce qui est le propre de la conscience sur le plan physique. Comme la conscience du règne minéral se trouve dans le dévachant supérieur, celle des végétaux dans le dévachant inférieur, et celle des animaux sur le plan astral, la conscience de soi de l'être humain se trouve au niveau du monde physique. Ce n'est qu'ici, dans son jeu, que l'être humain peut s'affirmer, car aucune autre entité n'y a accès, aucune autre soit conscience n'y pénètre. Nous avons ainsi appris à connaître les quatre éléments de la nature humaine, l'être humain physique, l'être humain éthérique, l'être humain astral et le jeu. Toutefois, ces éléments ne constituent pas encore la totalité de la nature humaine. Déjà, lors de sa toute première incarnation sur Terre, l'être humain possédait ces éléments. Or, le passage à travers les différentes incarnations implique un progrès, un développement. Ce progrès consiste dans le fait que l'être humain, à partir de son je, travaille à transformer ses trois corps inférieurs. Si l'on considère un être humain, qui dans un passé très lointain en est à sa première incarnation, on constate qu'il est l'esclave de ses passions, de ses convoitises. Il possède bien ses quatre corps, y compris le je, mais sa conduite ne se distingue guère de celle d'un animal. Si nous comparons cet être à un être humain pénétré d'un idéal élevé, nous verrons que le premier, le sauvage, ne s'est pas encore efforcé, à partir de son « je », de purifier son corps astral. C'est en effet dans ce travail sur le corps astral que consiste le premier progrès de l'évolution humaine. Peu à peu, l'être humain apprend à maîtriser certaines tendances originelles du corps astral. Actuellement, l'Européen moyen considère que, s'il peut donner libre cours à certains instincts, il en est d'autres auxquels il se doit de résister. Nous appelons « soi-esprit », entre guillemets, cette partie originelle du corps astral que l'être humain a placée sous la domination de son jeu. On l'a aussi appelé le manas. Ce manas est donc le produit d'une métamorphose du corps astral. Mais une nouvelle disposition ou ordonnance des éléments de ce corps peut donner naissance au manas. En outre, l'être humain, au cours de son évolution, peut acquérir la faculté de travailler non seulement à son corps astral, mais aussi à son corps éthérique. Essayons de nous rendre compte en quoi consiste cette dernière faculté. Si l'on se rappelle quel était notre bagage intellectuel quand nous avions 8 ans, et que l'on considère tout ce que nous y avons ajouté depuis, toutes les idées morales, par exemple, dont nous nous sommes pénétrés, nous pourrions nous attendre à ne plus nous laisser aller aveuglément à nos passions. Et pourtant, admettons par exemple que nous avons été un enfant sujet à des accès de colère, et demandons-nous dans quelle mesure nous nous sommes corrigés. Il nous faudra bien avouer que parfois nous nous emportons encore, ou encore essayons de nous représenter combien peu nous avons réussi à améliorer notre mémoire. Dans quelle infime mesure l'être humain arrive à modifier les mauvaises dispositions de son caractère, à éclairer sa conscience, à transformer son tempérament. J'ai souvent comparé ces velléités et ces bonnes intentions à la lente progression de l'aiguille du cadran qui marque les heures. Mais c'est en cela justement que consiste l'initiation de l'élève. L'étude n'est qu'une simple préparation. Il est infiniment plus important d'essayer de modifier son tempérament déficient. Si, d'une mémoire faible, on en fait une bonne, si la colère est devenue patience, si on a transformé en sérénité son tempérament mélancolique, on a fait plus de progrès dans la voie de l'initiation que si on a passé sa vie à enrichir son savoir. De pareils efforts sont une source de force occulte et nous indiquent que le jeu travaille au corps éthérique et non seulement au corps astral. Pour autant que les dispositions du caractère se font jour dans la conduite de l'être humain, il les faut chercher dans le corps astral. Mais il faut descendre jusqu'au corps éthérique si l'on veut les modifier ou les corriger. La part du corps éthérique que le jeu a métamorphosé prend le nom d'esprit de vie, entre guillemets, que l'on trouve sous le nom de Bouddhi dans la littérature théosophique. La substance de Bouddhi n'est pas autre chose que la partie du corps éthérique transformée par le jeu. Quand le jeu devient si fort qu'il apprend à transformer non seulement le corps éthérique, mais encore le corps physique le plus dense de la nature humaine, alors nous disons que l'être humain a développé en lui l'élément le plus élevé de sa nature actuelle, qu'on appelle l'homme-esprit ou Atma. En effet, ce corps physique est ainsi fait que les forces qui l'animent tirent leur origine du plus haut des mondes. Aussi est-ce dans ces hautes régions spirituelles qu'il faut aller chercher les forces aptes à le métamorphoser. On commence cette métamorphose en modifiant le processus de la respiration. Atma signifie respiration. Par là, on influence sur l'état du sang. Et comme le sang nourrit le corps physique, le travail effectué sur ce qu'on appelle l'atma a sa répercussion jusque sur le monde spirituel le plus élevé. Il faut cependant distinguer entre deux formes de métamorphose, ou plus exactement, l'on parlera d'une métamorphose consciente et d'une métamorphose inconsciente. En fait, chaque Européen a déjà, à l'époque actuelle, transformé inconsciemment les corps inférieurs de sa nature. Au point actuel de son évolution, il ne travaille consciemment qu'à l'élaboration du manas. Et il doit d'abord devenir un initié s'il veut apprendre à agir en pleine conscience sur le corps éthérique. Nous avons donc les trois corps originels de la nature humaine que tout être humain a déjà possédé au début de l'évolution terrestre, et dans ces corps, le je. Puis, la métamorphose commence. Longtemps, elle reste inconsciente, et ce n'est qu'à notre époque que l'humanité s'astreint à transformer le corps astral consciemment. Les initiés travaillent aujourd'hui au corps éthérique, et dans l'avenir, tous les êtres humains transformeront les corps éthériques et physiques en pleine conscience. Ainsi, nous avons trois corps originels de l'être humain. Les corps physiques, éthériques, astral et le jeu. Le jeu est l'élément actif de ces métamorphoses. Il s'attaque d'abord au corps inférieur, ce qui, partiellement, est déjà chose faite pour l'être humain actuel. De ce travail inconscient naissent les germes des éléments supérieurs. Manas, Bouddhi, Atma. En outre, on distingue dans la théosophie rosicrucienne l'âme sensible, l'âme d'entendement, l'âme de conscience. Ce n'est que dans l'âme de conscience que s'amorce la métamorphose consciente. C'est là que le jeu commence son travail. En premier lieu, il développe le manas dans l'âme de conscience, puis de l'âme d'entendement sortira le bouddhi ou esprit de vie, comme pendant au corps de vie ou corps éthérique, et enfin de l'âme sensible naîtra le vrai homme-esprit ou atma. Ainsi, nous arrivons à un total de 9 éléments constitutifs de la nature humaine. En apparence, 2 de ces éléments s'emboîtent l'un dans l'autre, comme l'épée dans le fourreau. L'âme sensible est engainée dans le corps astral, de sorte que ces 2 éléments n'en paraissent qu'un seul. Il en va de même pour l'âme de conscience et le manas. Les 9 corps se réduisent ainsi en 7. 1. Le corps physique. 2. Le corps de vie ou corps éthérique. 3. Le corps astral, dans lequel repose l'âme sensible. 4. Le je. Puis les 3 éléments supérieurs, le manas, avec l'âme de conscience, le bouddhi et l'atma. C'est là la structure interne de la nature humaine qui en fait embrasse 9 éléments dont 2 × 2 coïncident. Dans le cycle de conférences en question, on voit apparaître une espèce de dessin, de schéma, qui reprend ainsi les 9 éléments en question et leur imbrication respective. La méthode rosicrucienne compte donc en tout 3 × 3, soit 9 éléments qu'il faut savoir reconnaître dans les 7 qui sont apparents, sans quoi on en reste à une vue purement théorique. C'est dans les âmes que le jeu apparaît en premier lieu, ensuite commence son travail sur les corps. Mais pour passer de la théorie à la vie pratique, il nous faudra dans notre conférence de demain appliquer les données de cette description schématique à l'étude de l'être humain à l'état de veille, de l'être humain endormi et de l'être humain mort.